Les amis, l'aventure nous appelle encore. Des contrées extraordinaires nous attendent. Des espèces inconnues vivent là, au-dessus de nous, en dessous de nous, à travers le temps, là où encore aucun homme ni aucune femme n'a jamais posé les pieds. Je te convoque, ma fidèle team d'explorateurs au sein de la navette Fetabea, pour voguer à nouveau vers l'inconnu. Que l'on fasse chauffer les machines, préparez-vous à l'expédition. Kevin !
Oui ?
Fermeture du sas de la navette.
Sas fermé !
Clémence ! Mise en configuration des vols de surface mobile de la navette.
C'est comme si c'était fait.
William !
Oui ?
Mise en route de la séquence automatique.
L'automatisation est mise en place.
Marion, lancez la mise sous tension autonome de l'orbiteur.
C'est fait.
Attention, préparez-vous, ça va décoller. Ça marche pas.
Ah.
Ça démarre pas.
Oh mais non, mais c'est... Kevin, t'as changé les fusibles.
Mais pas du tout.
Mais c'était ton job.
Il y a plus d'essence dans le réservoir, les gars, là.
Ah, il a pas fait le plein.
Oh non. Oh. Kevin, tu devais remplir l'essence.
Mais j'y suis allé, mais il y avait plus d'essence. J'ai fait la queue pendant 12 heures.
Oh non, la pénurie, c'est vrai. Oh putain de monde de merde.
J'ai mis du rhum.
Oh bah oui, bah là c'est foutu.
Ça ne marche pas.
Le moteur est serré.
Bah, j'ai vu ça dans un film.
Eh ben écoutez, on va rester sur Terre hein, pour cet épisode. Wouh.
Oh super. Non, pas la Terre, c'est nul.
Allez, la magie de Disney, c'est parti.
In a world, Jack. What do you mean, no in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. Comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fetabea, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annoncées sans aucune
objectivité.
Aujourd'hui, la guerre est à nos portes. Le monde est en proie à des pénuries plus que contraignantes provoquées par l'homme. Et il n'y a plus de saison, ma petite dame.
C'est bien vrai.
Je regarde par la fenêtre et je vois un monde consumé par la machine capitaliste. Surconsommation, surexploitation, monopole des richesses, violence, mort. Où va ce monde en déclin? Où sont nos valeurs? Comment l'homme est-il devenu l'esclave du matérialisme qu'il a lui-même créé? Comment... Oh, tiens, un nouveau Disney.
Ah ouais, génial.
Youpi, youpi, ça fait plaisir, let's go. Wow, trop bien, bah, on oublie tout ça, c'est de la magie Disney est présente. Ça, Disney va sauver le monde, c'est parti. Je vous présente quand même ma team d'aujourd'hui. Évidemment, qui va m'accompagner sur ce centième épisode déjà, les amis.
Oh.
L'épisode sans essence.
L'épisode sans plomb. Est-ce que ce sera un épisode spécial avec plein de guests? Pas du tout.
Parce qu'on s'en était pas rendu compte.
C'est vrai qu'on s'en est rendu compte juste avant d'enregistrer. Allez, voilà, on aime notre podcast. On vous aime, auditeurs, auditrices. Ma team, désolé, on est sur Terre pour cet épisode alors qu'on devait prendre la navette. Merci Kevin hein, pour...
Moi j'ai essayé d'apporter une solution.
T'aurais dû prévoir la guerre en Ukraine, les pénuries, tout ça.
Ah putain, j'aurais dû appeler Poutine.
Bon, on a quand même autour de la table Clémence qui est là. Salut Clémence.
Salut.
Comment ça va Clémence?
Ça va.
Ça va bien?
Ouais.
Kevin aussi est là.
Ça va.
Pour parler Disney.
Ouais.
Bon, écoute, on te pardonne Kevin, tu es tout pardonné. Sinon, okay,
Bon, je suis content d'être là alors.
Oui, ah, on va pas rester dans le conflit. William est là.
Oui, je suis dégoûté, j'avais tout prévu pour le voyage, même les crêpes, c'est dommage.
C'est vrai qu'il y a des petites crêpes au milieu de la table, c'est très sympa ça. Merci pour son attention William. Mais qui c'est qui va là là?
Mais coucou.
Qui c'est qui revient là?
Mais coucou.
Ce serait pas la Marion là?
Oui.
Je suis bidou bidou.
On parle de la souris aux grandes oreilles, elle est toujours là.
Comment qu'elle va celle-ci
hein? Eh ben ça va super, surtout que j'apprends que je suis là pour le centième, donc je suis trop contente.
C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, bah,
c'est toi la guest en fait.
Et ouais.
Et Marion guest. C'est vrai que c'est un peu la guest maintenant, on la voit plus beaucoup hein.
Elle repasse une tête pour les Disney parce que c'est la spécialiste Disney, vous le savez. En plus, c'est des épisodes qui marchent très bien. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, Marion, avec ta présence ?
Je n'aurais pas cette prétention.
Moi, je pense que oui.
Marion Mickey, octogone sans règles.
Marion, spécialiste Disney, même si elle confond les grands classiques.
Oh. Petite
private joke.
Vous pouvez pas voir le regard que je lui jette là, mais oui. Private joke.
Aujourd'hui, à Valonia, l'étrange monde perdu de l'histoire du peuple sous terre. C'est quoi déjà le titre ? J'ai oublié. L'étrange histoire fantastique.
L'étrange voyage, non ? C'est pas ça ?
Ouais, l'étrange voyage, tout simplement.
Ouais, c'est vraiment.
J'ai tout noté sauf le titre du film sur mes notes. Voilà, on y est. À Valonia, l'étrange voyage. Un film Disney d'animation, purement Disney, même si ça peut ressembler à un Pixar. On a eu Encanto dernièrement. Et voici à Valonia, le film Disney qui sortira sur Disney+. Voilà.
Encore.
Uniquement.
On va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui au programme, évidemment, on va se faire la BA comme d'habitude et on aura une petite partie théma polémique parce que qui dit Disney dit toujours polémique, toujours à chaque sortie de film. Il y a une polémique, que ce soit chez Marvel, que ce soit ailleurs. Chez Disney Animation aussi, là c'est la polémique, la chronologie des médias. On vous fera un petit topo là-dessus. Restez avec nous, ce sera juste après la BA. Et je vais d'abord présenter le réalisateur de ce film, Don Hall. Réalisateur, scénariste, acteur et animateur de 53 ans, le coco, qui a pratiquement bossé toute sa vie chez Disney. Alors, il a toujours travaillé chez Disney, même s'il a fait un petit détour à un moment chez DreamWorks pour faire le film Spirit, pour animer. Hein.
Spirit, les talons des plaines, c'était de la balle.
Ouais.
Ouais, j'ai jamais vu, mais je crois que c'est bien.
Ouais.
Donc, animateur, entre autres, je ne vais pas faire tout son CV, mais entre autres de Cusco. Et il a bossé là-dessus, sur Chicken Little aussi.
Scénariste de Cusco aussi, scénariste de Tarzan.
Ah, exactement, Frère des Ours, qui l'a écrit aussi. La Princesse et la Grenouille. Et un petit bonus, La Ferme se rebelle aussi.
Ouais.
Qui est le plus claqué de tous les films Disney.
J'allais dire un mineur,
j'ose
mais tu as posé les termes.
Le dire. Mineur ?
Ouais, un Disney mineur.
Là, ça a creusé carrément. C'est plus que mineur. Hein.
Il a quelques réalisations aussi à son actif, Vaiana, je crois.
Alors, il a co-réalisé jusqu'à ce film où il est en solo. À Valonia, c'est le film, en tout cas il est noté comme ça en tant qu'unique réalisateur. Il y a eu Winnie l'ourson, Les Nouveaux Héros, Vaiana et Raya.
Ah, Raya.
Trop bien.
Qu'on a eu l'occasion de faire ici à Fetabea et un épisode qui marche super bien d'ailleurs.
Folanta, les cinq tribus, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ? La tribu Grand Frère, on se souvient. La première réal solo, je le disais, c'est avec À Valonia. L'étrange monde perdu, j'ai déjà oublié le truc.
L'étrange voyage.
Faut pas chercher compliqué là.
Pourquoi je me perds comme ça ? C'est fou ça. On va se faire la BA tout de suite, on se la lance. Let's go. Allez, tout le monde, en cœur. Oui.
Le lien dans la description si vous voulez la regarder aussi.
C'est vrai.
Télécommande s'il vous plaît.
La BA est en lien. Il n'y a pas de navette, on fait genre. Je m'éloigne du micro seulement.
Oh.
Allez.
D'aéronef, ça ?
J'ai jamais rien vu de pareil !
Petit Clyde !
Qu'est-ce que la présidente fait dans notre jardin ?
Notre monde tout entier est en danger. Il faut absolument que tu m'accompagnes en expédition.
Je ne suis pas mon père. C'était lui l'explorateur.
Je sais que tu étais jeune quand il a été porté disparu. Mais aujourd'hui, tu es notre seul espoir.
Monsieur Clyde, je suis un gros fan. Oh, merci. De votre père. Vous me feriez un autographe en imitant sa signature ?
Quoi ?
Mais enfin, on est où, là ?
Ethan, t'as pris le chien ?
Désolé.
On est manifestement en terre inconnue.
Wow.
Bonjour, vous devez pas comprendre un seul mot de ce que je dis.
C'est bon, qu'est-ce que tu crois ? Je suis pas sourd.
Papa ?
Papa ?
Grand-père ?
Je suis grand-père.
C'est quoi cet endroit ?
Les falaises sont vivantes et l'eau te ronge la peau jusqu'à l'os.
Tout ce qui nous entoure veut nous tuer.
Ça te dérange pas que je t'appelle Splat ? Ça te va bien vu que t'as une tête toute plate ?
D'accord, je l'ai mérité.
Grand-père est génial !
Il a rien de génial ! Tu m'as offert une machette pour mon anniversaire ! Ça, c'est moi tout craché. J'avais 200.
Cette petite réunion de famille est touchante, mais en attendant, on a un monde à sauver.
Il faut que vous trouviez une solution, sinon on est tous morts, on est tous morts.
Non, c'est vrai?
Non, je vous fais marcher, oh lui. Je l'ai pas vu venir.
Bah oui, ils sont partis en voyage.
Oui.
Étrange.
Un étrange voyage.
Les fantastiques du monde perdu.
L'étrange voyage à Valonia. Voilà, c'était la BA Disney de cette année, le film Disney de cette année. Qu'est-ce que ça dit avant toute chose, vous le savez? Le point stat, les stats. Alors, dans cette BA de 2 minutes 19, il y a 83 plans. Ce qui nous donne, après un savant calcul, d'une moyenne de 0,6 plans par seconde.
Bon, c'est la moyenne.
Moyenne.
Voilà, mais c'est l'école Disney, ça c'est très formaté, hein. On laisse rien dépasser. C'est une BA à 0,6 plans, ça reste dans la moyenne, c'est très bien comme ça.
Mais la donnée que nous attendons tous.
Effectivement.
Indispensable.
Je sais, le monde l'attend. La donnée. La fameuse dernière stat. Ben, je sais pas. Vous savez pourquoi? J'ai eu beau chercher. Il n'y a aucune info sur la durée du film.
Mais non.
Ouais, je ne sais pas combien de temps dure ce film. Alors, il peut aussi bien durer 1h15 comme 3h20. Donc, voilà, je ne sais pas.
Ce qui est peu probable, selon Disney, un 3h20.
Je ne comprends pas pourquoi il y a un embargo sur la durée. Tu l'as trouvé, toi, Kevin?
Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas la durée.
Peut-être parce que la durée se perd quand ils entrent dans le monde inconnu et qu'il n'y a plus de... Il y a une faille spatio-temporelle.
Qu'est-ce que le temps? Au fond, je vous invite à lire Deleuze.
Peut-être que le montage n'est pas complètement terminé, étant donné que le film sort sur les plateformes et pas en salle. Ils peuvent peut-être se permettre de grignoter encore un peu.
Ouais.
Jusqu'au dernier moment. Ouais.
Ben, on voit même que dans la BA, ils disent prochainement, alors que par contre, il y a une date sur Internet. Alors, est-ce qu'il faut la croire? Mais c'est marqué 23 novembre pour la sortie. Là, il se cale derrière le prochainement. Il n'y a pas la durée du film. De toute façon, ce film, ça a l'air d'être un bordel monstre.
Mais je crois que, ouais, en plus, maintenant, ils sont méga frileux par rapport à tout ce qui a été Covid et tout sur les sorties ciné. Prochainement, au moins, ça veut dire que tu n'es pas obligé de refaire ta bande-annonce si tu la sors plus tard, quoi.
C'est clair, c'est clair.
En tout cas, c'est pas rassurant parce que s'ils sont encore en montage, si proche de la sortie, c'est qu'ils ont sûrement des modifs à faire, des retours panel pas bons, donc ça remodifie, ça annonce rien de bon en général, quoi.
Ou alors ils attendent de voir les commentaires des gens sur la bande-annonce pour dire « Ah, ils ont pas aimé tel truc, on l'enlève ».
Non, mais ce qui est limite encore, je trouve, plus effrayant, parce que quand tu commences à faire ton film en fonction de ce que peut penser ton public, c'est que c'est déjà fini, quoi.
Ouais, mais voilà, écoutez, ils se couvrent, c'est Disney, hein. On en a déjà parlé mille fois, ça reste Disney, même si on aime regarder leurs films d'animation, ça reste un empire et tous ces travers qui vont avec. La BA, on va se la faire tout de suite, c'est parti. Sur quoi s'ouvre la BA? Sur une boîte sur laquelle il y a marqué Clad Farms. Il y a marqué sur, en plus du logo de cette ferme, hein, la ferme Clade, je crois que c'est le nom de la famille, il y a marqué un truc Best Pondo, j'ai cru lire Pondo, je l'ai mis sur ma télé, la BA, pour histoire de bien voir. J'ai zoomé, je crois que c'est marqué Pondo, je ne sais pas si c'est vraiment un mot. Best Pondo in Avalonia.
En tout cas, sur l'image, on a l'impression qu'ils cultivent des choux de Bruxelles, quoi.
Ouais.
Des grosses boules vertes. Ou alors, c'est des gros petits pois.
Je ne sais pas ce que c'est comme fruit, ça a l'air d'être des pastèques melons, petits pois. Bizarre, en tout cas. On est dans la ferme Clade.
Du coup, ça veut dire que in Avalonia, ils habitent en Avalonia.
Ouais. Et pour préciser, j'ai fait un peu des recherches sur ce que c'était Avalonia. C'est une espèce de continent perdu avec les couches géologiques
tectonique.
Qui sont percutées. C'est une espèce de monde qui existait aux abords de l'Europe et qui a été englouti. Enfin, je suis pas très scientifique sur le délire, mais c'est un truc comme ça.
Ouais, Wikipédia nous dit que c'est un terrain du paléozoïque.
Ouais, voilà. En gros, c'est quelque chose maintenant qui n'existe plus, qui est sous les eaux, je crois. C'est en tout cas, voilà, c'est ce qu'on appelle les continents perdus, quoi, les continents...
L'Atlantide.
Tu crois que c'est l'Atlantide?
Je sais pas, mais j'aimerais bien.
Avalonia, l'Empire perdu. On découvre aussi dans la BA un agriculteur et son fils en pleine récolte de ces fameux fruits, choux de Bruxelles, melon pastèque.
Les pando.
Tu crois que c'est ça, les pando, du coup? Bah oui, pando. Forcément.
Bah, le pando, c'est un arbre.
Ah ouais? Ça fait des fruits.
Moi, je suis en train de faire des recherches en même temps. C'est le plus vieux, le plus gros de tous les êtres vivants connus sur la planète, le pando.
Oh. D'accord. Ouais.
C'est en fait un peuplier.
D'accord, ok.
Qui a plein de troncs, apparemment. Bon, ça ne fait pas de fruits, je crois. Donc je ne sais pas trop ce que c'est.
Bon, bah, un agriculteur de Pando et son fils en train de bosser dans la ferme. Un petit regard, Chabalabadou, là.
Regard, je suis fier de toi parce que tu vas reprendre la ferme familiale.
Tu vas faire de la confiture de Pando, mon fils.
Tu vas prendre la relève, mais moi, je veux devenir un spationaute. Non, 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 tu seras éleveur de Pando. Alors, là, tout de suite, c'est le panneau qui vient nous interroger. Vous êtes-vous déjà demandé quelles aventures se cachent au-delà de notre monde ?
Oui.
Je vous pose la question,
oui,
du coup.
Oui, bah. Oui, je me suis demandé, mais j'y suis pas allé, hein.
Oui,
mais c'est... Bah, t'avais pas de Pando.
T'avais pas d'essence.
Non, on n'a pas d'essence. Et là, on tombe dans la BA sur la vieille image gimmick de la pièce condamnée. C'est un truc qu'on retrouve souvent, je sais pas pourquoi, dans les films, souvent chez Disney même. On ouvre une vieille pièce condamnée dans laquelle il y a les souvenirs qu'on veut enfouir. Finalement, on y retourne à un moment. Et là, le gars, il nous sort une petite boussole avec une petite photo de famille de lui jeune et ses deux parents.
Dont un des coins a été déchiré.
Dont un des coins a été déchiré.
La tête de son... papa.
La tête du papa, il y a déjà un problème avec le papa.
C'est déjà
un truc qu'on voyait dans Coco, cette histoire de photo.
Avec le grand-père.
Complètement, ouais.
Photo déchirée avec le père qui manque. C'était le grand-père dans Coco.
C'est le grand-père de Coco, ouais.
Et donc voilà, et ensuite c'est l'appel à l'aventure.
Arrière-grand-père de Miguel. Arrière-grand-père.
Ah, ouais.
Ah oui, père de Coco, arrière-grand-père de Miguel.
Exactement. Découvrez la généalogie du film Coco en exclusivité.
Il n'y avait pas ça aussi dans Encanto avec Bruno ?
Oui, t'as le même genre de procédé.
Ah, ouais. On avait dit quoi ? On parle pas de Bruno.
Ah pardon.
Vous voulez dire qu'ils font leur scénar avec des algorithmes ?
Mm-hmm. Moi j'ai rien dit. L'élément photo déchiré, personne de la famille rogné.
Ou
disparu.
Famille, comment dire, en plein dans la diversité. Hein, parce que le gosse c'est un métis entre ce que je pense être un hispanique et une afro-américaine, on dirait, la maman. Du coup, le gosse est un beau métis au beau locks, un beau chapeau, beau bonnet là. Mais c'est l'appel à l'aventure, c'est un film d'aventure.
Il a trop kiffé son style, tu sais. Ah, j'adore ses habits, quoi. Je vais m'acheter un bonnet aussi.
Je suis trop dans ma jalousie.
Il a trouvé son costume pour Halloween.
C'est ouf.
Mais là, tout de suite, juste une petite parenthèse sur le chara-design des persos.
Bon, on l'a déjà vu.
Mais moi, je l'ai déjà vu, mais pas dans un Disney en fait. Ça vous rappelle pas le chara-design des persos de Transylvania? Enfin, Hôtel Transylvania,
ah,
là.
Ah, un petit peu, les...
Oh, poil.
On dirait
les
yeux,
ça,
les yeux
ouais.
Peut-être un
si,
petit peu.
Dans les yeux, dans le visage long.
Ça me rappelle le truc du Père Noël, moi. Comment ça s'appelait Mission Noël ou un truc comme ça. Il a la même tronche.
Mission... Milo ouais.
Non, Mission Noël, je crois.
Elle est obscure, cette référence.
Ah, non. J'ai pour retrouver ça.
Super Noël avec Tim Allen.
Un film d'animation.
Ah, non, ça, c'était vachement. Mission Noël, ça vous parle pas ?
Ah oui, Mission Noël. Bon, ce film, personne s'en souvient.
Non, ça me dit rien.
Bah, c'est pas si vieux que ça.
Alors, auditrice,
2011.
Auditeur. Ouais, mais personne s'en souvient.
Alors,
film.
Ça a 11 ans.
Wow. Oui, bon.
Le film là, il rentre en sixième. Hein. Quand tu relativises le temps comme
non,
ça.
Non, mais par contre, le personnage principal, il me fait un peu penser au père dans Encanto aussi. Enfin, je me souviens pas exactement. Pour moi, c'est ce genre de visage allongé.
Oui, je suis d'accord.
Mais c'est pas très Disney du coup, je trouve, dans les traits. Enfin,
ah bon.
Mais qu'est-ce que Disney ?
Mais si, c'est les grands yeux, c'est les visages fins. Enfin, il y a un trait Disney quoi. C'est la Reine des Neiges et tout ça. C'est
oui,
Encanto,
là ils ont
c'est...
un côté plus cartoonesque avec leur gros nez et leurs petits
ouais,
yeux.
Ouais, c'est ça. Il y a le nez aussi qui.
Je sais pas. Moi, je trouve que ça fait quand même très en avant. Ça fait très.
Oui.
Tous ces films là quoi.
Ouais.
J'ai l'impression d'avoir déjà
c'est vrai,
vu ce chara design.
Très en avant.
Ouais,
mais
attention,
vrai.
Pixar, Disney, torchon, serviette.
Torchon de serviette, méga copain dans le même tiroir quand même. Hein.
Partage le même anneau de serviette. Du coup, l'appel à l'aventure, forcément, c'est un film d'aventure. On a un aéronef qui débarque.
Élément déclencheur.
L'élément déclencheur, hein, parce qu'on est en train de cultiver son petit pando et ça débarque. Et là, moi, j'ai tapé une barre tout seul chez moi. Parce que je trouve que le vaisseau, là, on dirait le cul de Buzz l'éclair.
Je m'en vois ça un peu.
allez voir, mais on dirait qu'on a juste pris le cul de Buzz l'éclair, qu'on a rajouté quelques réacteurs et ça fait un vaisseau.
Je regarde pas souvent le cul de Buzz
l'éclair. Tu veux dire en enlevant les jambes et le tronc au-dessus ?
Ouais, tu gardes juste.
Ça fait
tu démontes le jouet, tu
le
gardes
slip.
Le cul et puis voilà, ça fait je trouve que ça fait le vaisseau.
Ok.
Maintenant que je vous l'ai dit, quand vous regarderez la
BA. Maintenant, ça fait bizarre de voir quelqu'un sortir dans de la fumée du cul de Buzz l'éclair quand même.
Oui, Star Command.
Et c'est pas n'importe qui, c'est la présidente.
C'est la présidente de.
De Avalonia.
Quel pays ?
En même temps, ils sont quatre hein, dessus, j'ai l'impression. Donc,
Madame la présidente débarque.
Ouais, c'est la voisine, quoi. C'est la voisine du gars.
C'est, on dirait la descendante de Raya et Mulan.
On dirait qu'elle est amérindienne, moi, je trouve.
Et c'est diversité à fond. Même le chien, c'est diversité. Hein.
Présidente amérindienne.
Le chien,
c'est le chien, c'est un bobtail.
C'est inclusif. Regardez, il a que trois pattes. Pour dire que c'est très inclusif, Disney.
Il a que trois pattes.
Il a que trois pattes, le chien. Ouais, ouais.
Comment il va faire ?
Bah...
ah, on peut très bien vivre avec trois pattes en tant que chien. Hein.
Je connais des chiens à trois pattes et ils sont très heureux dans la vie.
Je connais des mecs avec trois neurones et ils s'en sortent très bien aussi. Hein.
Oh, la violence.
Ouais. Bon, du coup, là, on a cette espèce d'ersatz Mulan Raya qui est la présidente de Avalonia. Hein,
elle fait plus Disney dans le chara-design, non?
Elle fait plus Disney parce qu'elle rappelle Raya qui est sortie il n'y a pas longtemps aussi.
Elle fait un peu Louisa aussi dans Encanto.
Louisa, la musclée, yes.
C'est vrai, il y a un petit air. Il y a un petit côté laine. J'ai remarqué dans toutes les tenues des gens, je pense qu'à Valonia, ils font beaucoup de laine.
Alors, moi, je pense que ce film, c'est une grosse ponceau des Iguales.
Il y a un truc.
Parce que là, il y a un truc dans le look des personnages, là, je sais pas, mais oh là là, ma chérie, on mélange des choses qui vont pas très ensemble, quoi. C'est très coloré, c'est okay. Des Iguales.
Elle vient chercher le père Jaeger parce qu'en gros, le monde est en danger et on comprend qu'il est issu d'une famille d'explorateurs.
C'est ça, parce que le pater qu'on a vu juste avant sur la petite photo déchirée, en fait, c'est le Bear Grylls de cet univers-là. Quoi.
C'est ça, exactement.
Et il a disparu. Il a disparu, ouais.
Il y a quelques années. On apprend qu'il a disparu quand le père était enfant.
Ouais.
Quand le héros était adolescent.
Ouais, on a un petit flashback là dans la BA où ils sont en train d'explorer un frigo. Là, et il y a le gamin qui... on voit le gamin, du coup, le père jeune, qui n'a pas l'air de s'entendre avec son pater. Parce que, je sais pas, peut-être différence de caractère, de pensée. Lui est peut-être aventurier alors que son père veut le pousser.
Bah, il l'annonce lui-même, hein, il le dit à la présidente, il dit « Je ne suis pas mon père. Je ne compte pas suivre ses traces. »
Mais est-ce que c'est pas un truc qui revient, ça, le côté quand ils sont explorateurs, en fait, comme dans The Lost City of Z, où en fait, ils délaissent complètement leur famille pour leur quête, en fait, quoi. Tu vois.
Ouais, bah c'est ça. Du coup, le pater est jamais là.
Mais du coup, si tu veux avoir une relation avec ton père, faut absolument le retrouver ou le suivre à l'autre bout du monde, quoi.
C'est ça. Ouais. Et rentrer dans son délire à lui, quoi. Mm.
Et il est porté disparu, ce monsieur-là. Voilà. R.I.P.
Suspense.
R.I.P. Appelez Jack Malone.
Vont-ils le retrouver?
Qu'est-ce que vous faites? Tu étais jeune quand il a disparu, mais aujourd'hui, tu es notre seul espoir.
Jack Malone, c'est FBI porté disparu.
Ouais.
Ah, la rêve qui est sortie du fond du...
Ok, wow. Boomer, ouais.
Moi, ça me rappelle Ad Astra, du coup, aussi.
Complètement.
Moi, ça me rappelle Interstellar, le fait qu'on... Parce que Interstellar, c'est quand même un cultivateur de maïs.
qui
a appelé à aller faire une grosse aventure dans les étoiles, quoi.
Ouais, mais Interstellar, du coup, c'est l'histoire du père du mec qui est dans le film Avalonia, quoi.
Interstellar, c'est l'histoire du père du
mec.
Parce
que c'est lui
le père
qui se barre. Alors que là, on suit le fils.
Je suis plus Tim Ad Astra.
Ouais.
C'est plus Ad Astra.
Ça me fait plus penser à Ad Astra.
En tout cas, la présidente a dit il n'y a que toi qui peux nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il aurait une compétence ou des pouvoirs particuliers que seul lui aurait ou que seule sa famille maîtriserait.
Il a la boussole magique.
Non, moi je pense que c'est plutôt un savoir du type, en fait il cherche un truc au-delà du monde, un endroit particulier, et il n'y a que son père qui avait su peut-être avant de disparaître où c'était, et du coup il n'y a que
peut-être
le fils
que lui,
peut-être qu'il sait aussi,
chemin,
et qui a cette info-là,
ouais,
ouais, pour les guider.
Ah ouais, ok.
Moi, ils doivent plus servir de guide, à mon avis.
Ils servent de GPS, quoi.
Ouais, soit ça, soit la
c'est
boussole.
C'est le tom-tom de la mission, les gars.
La boussole ou des notes, ouais. Des trucs qu'il aurait laissé, quoi.
Du coup, ils embarquent dans le cul de Buzz. C'est parti.
Ça se trouve, il s'appelle Waze Clyde, tu sais, le gars.
Waze Clyde.
C'est un GPS.
Tournez à gauche. Heureusement qu'il est là, sinon, on se serait complètement perdu. Du coup, c'est parti pour l'aventure. Et là, on est inclusif à fond chez Disney. Hein. Il y a un Indien dans le vaisseau.
Il a une moustache incroyable.
Après un indien dans la ville.
Oui, c'est ce que j'ai pensé.
Superbe moustache. Il est allé chez ton barbier, je pense.
Et qui est fan zouz absolument
du grand-père.
Père. Ça, c'est dommage. Mr. Clay, je suis un gros fan de votre père. Albata.
Il pousse le culot quand même jusqu'à lui dire est-ce que tu pourrais signer mon bouquin en imitant la signature de ton père. Pas cool.
Ce qui est un move de connard.
Un move de connard, je trouve.
Bah moi, j'ai pas mal imité la signature de mes parents sur les autographes sur mon carnet de correspondance.
Ouais, j'ai fait pareil aussi. C'est hyper pratique.
C'est parce que t'es prof et t'es fan de tes parents.
Mais j'étais fan de mes parents, j'imitais leur signature.
Ouais.
Des stars, mon tante. Ouais. Moi, Brad, Angelina, si vous nous écoutez.
Je l'ai fait qu'une fois et je me suis fait cramer. Donc j'avoue que.
Ah, pas de chance.
Ça n'a pas été une bonne expérience.
Ouais, moi aussi, le test, c'est pas.
C'est mal passé.
Tout est dans le geste du poignet, les gars.
Il faut comprendre la signature.
On lève et on abaisse. Et on prononce bien correctement.
La musique épique se lance dans la BA avec le panneau par les créateurs des nouveaux héros. Et Encanto, la fantastique famille Madrigal.
J'avais bien aimé les nouveaux héros. J'avais trouvé que c'était assez rafraîchissant dans l'univers Disney qui nous avait habitués au conte d'avoir une histoire moderne avec ce genre de chara-design. Alors ça s'inspirait d'une BD. Mais
c'est un Marvel Comics, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Hein.
Et j'avais trouvé qu'ils avaient fait le bon choix de design, de rythme et de... Ils avaient mis l'accent sur les bonnes choses, alors ça va peut-être être une bonne... J'espère qu'ils ont fait pareil, en tout cas, pour celui-là, quoi.
Bah,
ça serait une bonne chose.
Je trouve qu'il est un peu oublié, les nouveaux héros. je trouve qu'il est un peu sous-coté. Alors que c'est quand même, ouais, t'as raison, un bon film qui ramenait un peu de frais, comme Les Mondes de Ralph, ils avaient fait un moment. Ouais. Et après, ils ont renoué avec la princesse, hein, c'est le retour de la Reine des Neiges, c'était le retour de Raya, même si Raya, il y a quand même un côté ultra badass qu'on voyait pas forcément dans les films de princesse. Et là, ils repartent sur l'aventure.
Ouais. Et dans Big Hero 6, enfin les nouveaux héros, ce qui était bien en plus, c'est qu'ils avaient pris Fall Out Boy pour faire la musique. Et j'étais fan.
J'ai pas fait gaffe.
De ça, gamin.
Faudra que je le remate.
Thanks for the memories.
Mais c'est des valeurs sûres, hein. Il faut le mettre ça dans les panneaux pour attirer évidemment les gens justement qui sont fans de ces deux films-là cités. Un nouveau héros, Encanto qui a encore pété des records. Hein. La chanson Bruno là sur Spotify a
Oscar,
pété tous les records.
Oscar aussi, je crois en plus.
Non. Je sais plus.
Je crois qu'elle a pris l'Oscar. Ouais.
Je me souviens plus. Le cul de Buzz s'enfonce dans un trou profond.
Oui, parce que c'est un vaisseau, mais on va pas dans l'espace. On va.
Alors ça, voilà,
on va au grenier quoi.
Ça c'est une question.
Non, à la cave.
Ouais, d'où ton interpellation par rapport au titre tout à l'heure, ton interrogation pardon par rapport au titre.
Ouais, c'est
voyage au centre de la Terre, tout ça, ça vient peut-être de là.
Ça part dans la Terre en fait, c'est ça, ça va explorer les mondes souterrains, ouais. Ce fameux Avalonia, terre de légende quoi.
Ouais, on a l'impression qu'il s'enfonce dans un grand souterrain ou comme une faille quoi.
Ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la définition d'Avalonia, si c'est vraiment des espèces de strates géologiques qui séparerait la couche terrestre et dans lesquelles il y aurait des espèces de mondes émergés, de mondes possibles quoi.
En tout cas, c'est une terre inconnue. Donc il débarque du coup en terre inconnue et là il tombe sur Frédéric Lopez et Mimi Mati. Avec les Maasai. Muriel Robin qui débarque. Du coup, il débarque sur cette terre inconnue. Et qu'est-ce qu'on y voit sur ce fameux. On va l'appeler Avalonia, même si apparemment Avalonia c'est plus vaste, mais en tout cas les tréfonds d'Avalonia. Qu'est-ce qui habite ces contrées lointaines?
Des limaces volantes.
Des poissons, des raies.
Ouais, c'est des raies slash méduses.
Des raies slash bubblegum.
Des bandes poissons roses, des raies manta.
Il y a des langues de bœuf.
Qu'est-ce que vous pensez de cet univers des lampes de bœuf. Qu'est-ce que vous pensez des designs de cette faune, de cette flore?
Bah, j'ai l'impression qu'ils se sont pas trop foulés.
Ouais. Ça fait un peu animatique pas fini quoi.
Ouais, c'est ça.
Ça fait un peu bon, on n'a plus trop d'idées, on sait pas où mettre les yeux ni les oreilles, donc on va juste pas en mettre.
Perso, c'était très mis en avant dans la première bande-annonce et c'est ce qui m'a complètement mis en dehors, enfin ça m'a pas du tout donné envie de voir le film quoi.
C'est vrai que là on a choisi la deuxième BA du film, mais c'est vrai qu'il y a une première moi qui m'avait encore moins beauté que celle-là quoi.
Ah ouais.
C'était je sais pas. Du coup, j'ai peur de découvrir ce monde parce que comme il dit William, on a l'impression que
c'est rudimentaire quoi.
Ouais.
On est tous d'accord que visuellement c'est pas très beau.
C'est pas notre cam moi. C'est pas notre cam.
Là où sur certains Disney t'as au moins à défaut d'avoir une histoire très originale, t'as au moins des paysages et des persos intrigants et comment dire séduisants par leur aspect, bah là je trouve même pas quoi. C'est-à-dire que même dans par exemple tu prends Raya le dragon, bah l'idée de l'espèce de hamster qui roule, c'est mignon, ça marche, c'est utile, ça a une fonction. Là bon, est-ce que les méduses vont servir à quelque chose? Un peu plus tard dans la BA on voit une espèce d'action avec elles, mais ça a l'air d'être un peu bullshit quoi.
Pour moi c'est même pas des méduses, c'est comme des espèces de blobs.
Des blobs.
C'est comme les jouets qu'on avait dans les distributeurs et qu'on lance sur les vitres et qui se collent.
Bah, c'est répété ce gag plus tard dans la BA.
Voilà.
Le retour du père, la section là que j'ai appelée comme ça dans la BA parce que face au danger, comment on va appeler le père, le grand-père et le fils hein, parce que y a la
hiérarchie. Pour moi c'est le héros et son père.
Alors le héros il s'appelle Jaeger.
Jaeger Clade, ok. Ouais.
Oh, comme dans Attack on Titans.
Jaeger. Donc Jaeger, là, du coup, il se fait bolos par une espèce de
serpillère géante.
C'est une habib assez vénère, quand même. Hein.
C'est pas trop. Et là, il y a un mec qui débarque. On dirait un Alan Parrish d'Avalonia.
J'ai cru que c'était Gandalf qui avait fumé trop de weed.
J'adore la rêve d'Alan Parrish.
Vous
magique.
Ne passerez pas, hein. Alan Parrish, bah oui, il me fait penser à Jumanji,
oui,
moi.
À fond.
Jumanji au début quand on le découvre là, Robin Williams, et ça fait penser aussi à un Jawa géant. Jawa, c'est pas si vous voyez ce que c'est les yeux rouges peut-être qui m'ont mis dans le trouble. C'est les Jawa, c'est les ferrailleurs de l'espace dans Star Wars.
J'avais compris Jawa, pardon.
Jawa. Tu veux habiter chez moi, viens mon frère. Prochainement, ce film-là sortira, c'est le panneau qui nous l'indique. Et du coup, bah, on découvre que c'est le pater qui est là, qui en fait a vécu sa vie comme Alan Parrish dans Jumanji, a vécu sa vie très longtemps, tout seul, seul tout. Dans...
Ça a l'air d'être une sorte de MacGyver parce qu'il a l'air d'être tout seul dans la nature, il arrive quand même à construire des lance-flammes.
Ouais, mais voilà. Je pense qu'il est parti équipé, et peut-être qu'il a gardé un peu des ressources de son ancienne expédition, sa dernière expédition du coup.
On dirait un peu Nicole Kidman dans Aquaman.
Nicole Kidman.
Oula.
Oula, j'ai pas la ref.
Tu veux dire qu'il fait du kung-fu ?
Non, je veux dire que c'est. Elle est un peu dans la même tenue quand elle débarque après tant d'années. Elle a réussi à survivre dans un monde hostile toute seule. Elle ne fabrique pas des lance-flammes, mais enfin, c'est tout comme.
J'ai pas assez de connaissances sur Aquaman.
Je me rappelle pas.
Je pense qu'il faut vraiment revoir ce film, beaucoup.
Ah, non,
beaucoup,
merci.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste pour ça.
C'est un gros, non merci. Il lui fait faire un petit tour du proprio, le pater, du coup. Voilà, il lui apprend que les falaises sont vivantes et que l'eau orange ronge.
Jusqu'à l'os.
Jusqu'à l'os. Super, un monde très accueillant. Voilà, tout ce qui vous entoure en fait veut nous tuer, c'est ce que dit le personnage à ce moment-là.
Et pourtant c'est tout beau, tout rose, ça a l'air si accueillant comme ça.
Ça a l'air bien, hein. Je sais pas ce qu'on fout là. En tout cas, pour l'instant, on n'a toujours rien sur les enjeux. Parce que là, pour l'instant, ils sont juste en expédition touriste, quoi.
C'est vrai.
On sait toujours pas.
Mais au début, la présidente, elle avait dit que c'était pour sauver le monde, ou moins quand même.
Alors il y a un moment, quand on voit le vaisseau descendre, il passe dans une espèce de caverne qui s'éclaire en vert brillant.
Ah oui,
comme
oui.
S'il y avait une espèce d'électricité, de générateur, ou peut-être que c'est du coup le...
Là, je crois qu'ils ont creusé jusqu'aux déchets nucléaires. Hein.
D'uranium, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça, c'est une fuite dans le dépôt d'uranium. Mais en tout cas, ça a peut-être un rapport avec ça, peut-être que cet espace géologique perd de son énergie, qui lui permet de se maintenir à niveau, j'en sais rien.
Ou alors ils sont dans l'upside down.
Ah, ou genre qu'il y a une maladie, ou un truc comme ça.
Ouais. Je sais pas, je trouve que ça donne l'impression, enfin moi j'ai la sensation, quand je vois ça, d'être dans un estomac, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez cette sensation-là.
Ah oui, ça fait organique.
Mais ça fait très organique, très... l'eau, ça te ronge, mais c'est comme des sucs gastriques et tout. Peut-être qu'en fait, c'est pas un pays, c'est un ventre.
Ah, c'est un animal.
Ouais.
Mais il dit que les falaises sont vivantes, donc ouais, c'est peut-être un indice sur ça.
Je me dis,
l'aventure intérieure.
C'est pour ça que peut-être que les créatures ont cet aspect un peu cellule.
Ah ouais,
oui, mais ça fait très ça. C'est on dirait, voici la vie.
La vie.
Il y a des mecs en vaisseau qui vont arriver.
On tombe sur Maestro. C'est moi.
C'est Nicolas Sarkozy jaune virus.
J'avoue, en fait, c'est des lymphocytes le truc.
Des petits sarcos.
Envoyez l'armée des lymphocytes.
Il y a un flubber là, ça va devenir le sidekick. Hein.
Ça va être la peluche qui se vend,
bien
ça.
Sûr,
c'est un peu nul. Hein.
Il en faut un. L'autre, il va oublier son chien à trois pattes hein, quand il va tomber sur ça. C'est le dernier jouet à la mode, il en faut bien. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il se prend une grosse claquasse de l'espace à un moment.
Ah oui.
Tartine de gélatine.
Parce qu'il l'insulte en fait. Il fait ta tête, elle est toute plate. Pah! Il se prend une méga claque. Trois générations devront s'unir pour retrouver leur chemin.
Bah voilà, on nous annonce déjà un enjeu important du film.
Bah ça va être le conflit intergénérationnel entre le grand-père, le père et le fils.
Bah, comme dans Encanto, mais en mode aventure.
La famille a réunifié. Ouais.
Mais c'est présenté avec un petit split screen à ce moment-là. C'est sympa, je trouve.
Oui.
Parce que je pense que ce sera que dans la BA qu'on nous le montre comme ça. Histoire qu'on ait bien compris qu'ils sont liés, les trois. Voilà. Et
je trouve ça hyper dommage en fait, d'introduire le film sur le côté un peu mystérieux du père qui n'est pas là, dont on ne voit pas le visage. Et en fait,
au bout de 5 secondes
de BA, nous montrer qu'en fait, oh bah non, ça ne va pas du tout être un enjeu dans le film de le retrouver, parce qu'on va le retrouver, on sait qu'il est là, on sait qu'il est vivant. Et bah, du coup, je ne comprends pas bien l'intérêt
ça
de nous hyper là-dessus, ça gâche la surprise. Et tout le côté un peu histoire de famille qui pourrait être sympa, bah, je trouve que déjà, il l'enlève. Quoi.
Mais peut-être qu'il montre déjà que le père va être retrouvé parce que ce n'est pas l'enjeu principal. Et ça serait bien parce que en soi, c'est pas du tout original. On l'a vu 15 000 fois, le truc où tu retrouves celui qui était disparu. Il est en mode survivant depuis des années. Donc peut-être que ça, c'est désamorcé en vérité dans le film. Et
oui, mais si du coup l'enjeu, ça devient... il faut que le père, le héros principal s'entende avec son père parce qu'en fait, ils se sont pas vus et qu'ils s'entendaient pas gamins. C'est pareil, c'est un truc qu'on a déjà vu 10 000 fois. Et du coup, peut-être que de créer tout un mystère autour du grand-père de pourquoi il est parti et qu'on le découvre que progressivement en lui le retrouvant, ça aurait pu amener une sorte de mystère au film qu'il ne va peut-être pas avoir.
Peut-être qu'au départ, il est juste allé acheter des clopes. Hein.
Je reviens, je vais acheter des clopes. Allez, salut les losers.
Non, il va y avoir un problème, c'est que le petit-fils, contrairement au pater, lui, il kiffe son grand-père. Hein, il est en admiration devant lui parce que c'est un putain de badass. Parce que c'est vrai que l'autre, ça a l'air d'être une vieille quiche à côté.
D'un côté, t'as son père qui lui propose de cultiver des choux de Bruxelles toute sa vie. Et après, il a.
C'est très bon, les choux de Bruxelles. Et
ça se discute. Bon. Ça se discute.
Je suis dans la team William.
Ça se discute.
Pour moi, c'est un monde de rêve. Une ferme à choux de Bruxelles
est-ce
géant.
Tu peux respecter les pondos, s'il te plaît. Ce ne sont pas des choux de Bruxelles.
J'aimerais
une espèce en voie de disparition, les pondos.
D'un côté,
c'est le plus vieux fruit de l'histoire.
D'un côté, t'as quand même. En gros, te lever tous les jours à 6h et travailler jusqu'à 22h pour pas grand chose en tant qu'agriculteur ou aller à l'aventure avec ton grand-père qui se balade avec un lance-flamme. Je pense que...
J'avoue que t'as vite choisi quoi. Les pandos ou le lance-flamme.
Franchement, franchement, je prends les pandos, je vais pas traîner avec un
et
petit copain.
Et peut-être que les pandos, c'est un fusil de Tchekhov et qu'à la fin, c'est grâce aux pandos qu'ils vont réussir à sauver le monde ou à défaire l'ennemi.
Genre, ils vont tuer les ennemis en leur balançant des pandos.
Ah bah, peut-être que c'est une préparation paiement.
Ils sont tous hyper allergiques aux pandos, en fait.
Un pando
peut-être un nouveau carburant qu'on va extraire du pando.
Oh. Ouais, mais après, du coup, c'est surexploitation. Enfin, c'est pas bon pour la Terre, là, ce que tu racontes, là. Ça me fait très peur, ce scénario.
Le pando, ça, le pando, ça pousse très facilement. Pas de soucis.
Sans eau, sans engrais, sans rien. Quoi. Tout va bien.
Du coup, voilà, on nous montre qu'il y a conflit entre les générations parce que l'autre, il a toujours été poussé à l'aventure. Le père, il a toujours été poussé à l'aventure, sauf que c'est pas son délire. Son père lui avait offert une machette quand il avait 2 ans, alors qu'il aurait préféré, sans doute, à ce moment-là, avoir.
PlayStation 5 ?
Même pas, je pense un livre, quoi, un atlas, ça aurait été son délire, mais non, il dit, tiens, il m'achète mon fils, mais je m'en bats les couilles. Trop, quelle ingratitude quand même, hein ?
Une machette, quoi.
Moi, quand j'étais jeune, à Noël, j'avais une orange. Et j'étais très content, j'aurais bien aimé avoir une machette.
Au Vietnam ?
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Bah, elle devait être précieuse, je sais pas, parce que ça pousse pas là-bas quand même.
La seule du quartier.
Alors jusque-là, le film nous a montré l'enjeu secondaire de la famille, mais il commence à nous montrer aussi l'enjeu principal. Donc le danger sur le monde, on voit des espèces de bestioles.
Ouais, du coup, ils se tapent quoi, quand on a des espèces de ptérodactyles caoutchouteux.
J'ai un peu un PTSD de Buzz l'éclair, parce que quand on voyait les lianes dans la bande-annonce Buzz l'éclair, qu'on s'imaginait des espèces de paysages arides ou exotiques, là, j'ai peur de ce qu'on va avoir réellement avec tout ça là, dans Avalonia.
Ouais, beaucoup d'actions, en tout cas, qui nous sont montrées, ça va taper, hein, mine de rien. Ça a peut-être aussi l'air un peu plus, comment dire, mature que les autres films, parce que j'ai l'impression qu'il y a des morts qui nous sont montrés dans la bande-annonce.
Alors moi, ça, je pense que... Oui, alors on voit cette espèce de pilote là, qui se fait embarquer par une langue gluante. Mais ça, moi, je pense que ça va être désamorcé.
J'aimerais parce bien qu'il meure pour de vrai,
parce que la capitaine du vaisseau, elle a l'air quand même ultra badass. On la voit dans une séquence où elle s'envole avec des couteaux, elle plante... Et je suis sûr qu'elle va aller le rechercher, son pote.
C'est la présidente, elle, non ?
Ouais, la présidente a l'air ultra badass.
Elle est balèze. T'imagines Macron, il part comme ça en expédition avec des couteaux et tout. Jamais on verra ça.
Jamais.
Attends, déjà, il a fait le premier pas, il est venu nous dire qu'on était en guerre. Maintenant, il lui reste plus qu'à être.
C'est vrai.
Ouais, c'est la fin de l'abondance.
Il reste plus qu'à y aller maintenant.
T'as quand même réussi à caler Macron et Sarkozy dans.
Ouais, j'ai décidé de caler tous les présidents français dans chaque épisode.
Pompidou.
Bravo.
Voilà, du coup, peut-être, ouais, je pense qu'il mourra pas, mais ce serait, mais j'aimerais bien, tu vois, Atlantide, ça, c'était un film où ça crevait, et il y avait pas de résurrection, ouais. Machin, non, en fait, j'étais coincé sous une liane, non.
Mais
c'est...
d'ailleurs, ça rappelle beaucoup Atlantide,
ça rappelle vachement Atlantide, sauf qu'on a moins le côté un peu trash, adulte, mature d'Atlantide, parce que bon, ça, c'est toujours maintenant tourné vers les enfants avant tout, hein, chez Disney. Il y a moins de cette double lecture que chez Pixar sur les films Disney. Donc quand t'es parent et que t'emmènes voir à Disney, c'est pas sûr que tu kiffes quoi.
Tu trouves moins ton compte qu'avant en tout cas en tant qu'adulte.
Le titre apparaît à la fin de la BA avec une typo qui rappelle ces vieux films de science-fiction.
Ouais.
Avalonia, l'étrange voyage, parce que c'est clairement, tout le long de la BA on l'a compris, un hommage à ces grands films de science-fiction qu'il y a pu avoir à une époque.
Fantastique, même le film de créatures type... La créature du marais ou ces choses comme ça.
Oui, hein, voilà, c'est des vieux films des années 50-60. La planète interdite, La machine à explorer le temps. Je vous mettrai peut-être un lien sur les films vintage de cette époque. Vous regarderez les affiches ou même des extraits vidéo.
Toutes les adaptations de Jules Verne, non ? En fait.
Oui. Beaucoup.
Ça me fait penser à la typo d'un Picsou.
Ah oui !
Non, mais c'est vrai.
La chasse au trésor.
J'ai l'impression que c'est la même.
Mais la typo, elle fait aussi penser dans sa couleur et tout à Indiana Jones.
Pour l'aventure, pour tout ça, ouais, ça fait rappeler Jules Verne, hein, Voyage au centre de la Terre. Mais voilà, j'ai pas l'affiche en tête, faudrait que je la trouve là sur Google. Mais c'est clairement l'hommage du coup à cette période-là du cinéma que je ne connais pas personnellement. Je n'ai pas vu beaucoup des films de.
Moi, j'ai lu le bouquin Voyage au centre de la Terre, c'était très bien.
J'ai juste vu La Guerre des Mondes à cette époque-là, le vieux La Guerre des Mondes.
Moi, j'ai vu Spy Kids. C'est dans le 2, je crois. Il y a une île. Une île avec des choses bizarres, pareil.
Après, dans les années,
ça me fait penser.
Dans les années 2000 et 2010, il y a eu deux films Voyage au centre de la Terre. Hein. Le premier avec Brendan Fraser et le deuxième avec
The Rock. Et ouais. Mais c'était pas mal ça en plus, je crois. En termes d'aventure.
Le premier peut-être, le deuxième, je me rappelle que c'était quand même pas mal un gros nanar. Quoi.
Bon, l'affiche, c'est clairement ça. Hein. C'est clairement une affiche hommage au film de cette époque-là d'aventure. Quoi. Ouais, mais ça a l'air bien comme ça. Ce film sortira sur Disney+, on va en parler tout de suite, mais d'abord, est-ce que vous avez envie de voir ce film avec cette BA qui est terminée maintenant ? Marion ?
Franchement, ça me tue de dire ça parce que je crois que c'est bien une des premières fois que j'ai pas envie d'aller voir un Disney, quoi.
J'y crois.
Si, ça me donne pas. Alors, cette bande-annonce est, c'est pas français, mais moins pire que la première parce que franchement, la première, j'étais là, mais on comprend rien, ça nous parle pas l'univers, enfin voilà, ça me parvenait pas en tout cas à moi. Alors, la deuxième, il y a quand même un soupçon de d'histoire en fait qui ressort, donc ça me donne un petit peu plus envie. Après il y a un truc tout bête, j'ai pas Disney Plus, je compte pas m'abonner à Disney Plus, voilà, donc il est très probable que je ne vois pas The Ville.
Il y a des moyens, t'inquiète.
Du métro,
la petite snack du métro là, je te donnerai les arrêts, les petites stations où aller. T'inquiète pas, va, on va s'en sortir. Donc pas beauté Marion, et ben ça, voilà, c'est un monde qui s'effondre. Un monde qui s'effondre. C'est un monde qui s'effondre. Aïe aïe aïe. Kevin, as-tu envie de voir ce film avec cette BA?
Bah pas vraiment. Moi je trouve ça pas très beau déjà. Enfin je suis pas du tout client du design des créatures, etc. J'ai l'impression que ça va être une histoire encore qu'on a déjà vue 20 000 fois. Et raconter pareil, ça le problème, c'est que Disney souvent raconte de la même manière. Donc j'ai pas vraiment envie, je trouve pas ça très séduisant en tout cas dans la BA.
Aïe 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 aïe. William?
Bah du coup tout pareil, le fond a l'air déjà vu, la forme a l'air très pauvre, je suis pas du tout emballé, j'ai l'impression que ça va être vide, ça va être des grands espaces pas très originaux avec pas grand chose dedans, et je trouve que ça marque vachement là, un peu la fin d'une ère Disney innovante et précurseur dans...
Ah ouais, toi, t'es, ça y est, t'es,
ouais,
c'est
ouais,
fini,
vraiment,
quoi,
je
tu crois
pense
plus rien. C'est...
Là, je pense vraiment que Disney, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, ça va devenir de plus en plus fade.
Et pourtant, c'est très inclusif, regarde, il y a la diversité.
Ouais, mais c'est pas un outil de narration, c'est juste un outil de forme. Et du coup, bah, ils en font rien. Moi, je m'en fiche qu'on me mette un Asiatique... Une amérindienne dans le film, si derrière il n'y a pas toute une culture qui est proposée, toute une cohérence de volonté de mélanger. Là, si c'est juste pour mettre des faciès différents, c'est déjà bien, hein, c'est mieux que rien, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas.
Grosse ambiance aujourd'hui. Clémence, quand tu vois cette BA, ça te donne envie de voir le film?
Pas du tout. Aïe, aïe. Rien ne me donne envie dans la BA. Je crois que le seul truc qui me donne un tout petit peu envie, c'est la typo du titre, comme on vient de l'évoquer, qui fait référence à des anciens films d'aventure. Ça, c'est le seul code qui me hype un peu parce que je me dis que ça peut être surprenant. Mais sinon, vraiment, dans ce qui se passe dans la BA, mais rien ne me donne envie.
J'imagine Clémence qui regarde le film. Dès que le titre apparaît au début, il fait « Bon, bah voilà, c'est bon, c'est fin du film pour
j'ai
moi. »
J'ai ma dose.
Elle ouvre son ordi avec tafond.com.
Et c'est vrai que c'est bien les apparitions de titres. J'aime bien les apparitions de titres.
C'est vrai. Hein, peut-être ouais. Qu'on fera un épisode spécial un jour sur les apparitions de titres.
J'ai pas de titre.
Et toi, Romain?
Kevin est dans son monde depuis tout à l'heure. Il a son propre Avalonia là au bout de la table. On sait pas ce qu'il fait. Moi, écoutez, si j'ai envie de le voir, oui. Est-ce que cette BA me donne envie? Non. Mais par contre, oui, j'ai envie de le voir parce que ben, c'est un film qui marque un tournant encore chez Disney. Parce que Disney dit polémique. C'est un film qui sortira sur Disney+, alors qu'il devrait sortir au cinéma. Non, il y a un vrai problème avec ce film, surtout là, mais sinon, si je dois juste juger la BA, le monde, tout ça, c'est pas forcément un monde qui me rebute. Moi, j'ai quand même envie d'aller voir comment la vision de Disney sur ce qui est Jules Verne, tout ça. Peut-être que ça nous rappellera l'Atlantide, l'Empire perdu, j'en sais rien, mais je sais pas, moi, je suis plutôt attiré par cette histoire, même si je vous avoue que ça me casse les couilles encore d'avoir un enjeu de génération, papa, maman, fifis qui se prennent la tête, là. Bon. Ok, mais en termes d'aventure, je sais pas, ça a l'air nouveau, même si peut-être que le chara-design n'est pas là, mais bon, vraiment, vraiment, objectivement. Sinon, voilà, ce film, j'aurais bien aimé le voir au cinéma, ça va pas être possible parce qu'il sort que sur Disney+. Parce que qui dit Disney dit polémique, hein, ils font jamais rien comme d'autres. C'est assez terrible, à chaque fois qu'il y a un film Disney qui sort, que ce soit chez Marvel, que ce soit ailleurs, dès qu'il y a l'Empire Disney qui est là autour, ça crée des vagues sur Internet, et là pour le coup ça en fait beaucoup, parce qu'en plus ça touche plus que le monde d'Internet, ça peut carrément détruire le cinéma comme on l'entend ici en France. Je vais revenir un peu sur le problème, on va lancer tout de suite la théma, c'est le gros problème avec Disney en ce moment, on a notamment parlé de Black Panther aussi, si vous êtes au courant, auditeur, auditrice. On va pas forcément parler de Black Panther, on va l'inclure et on va utiliser ce film pour parler de ce problème avec la chronologie des médias, c'est que Disney, ils ont un problème avec la France, tout simplement, clairement, on va pas mâcher nos mots.
Tu veux dire dans le sens où les autres pays voient le film en salle ?
si tu veux voir le film, là, je crois qu'il sort en salle. Tu sais, souvent maintenant, la blague, c'est devenu si tu veux voir ce film en salle Disney, bah, il faut aller en Belgique. Malheureusement, c'est vrai.
Oui, d'accord.
Donc, je suis pas sûr qu'il sorte en salle ailleurs. Je sais pas si pour ce film-là, mais notamment pour Black Panther, à l'époque, c'était sûr qu'il allait sortir ailleurs, sauf chez Disney. Et là, pour le coup, ils ont choisi vraiment, là, pour le coup, c'est décidé que le film va sortir sur Disney+. Mais pour revenir sur cette polémique, ils ont un gros problème avec la chronologie des médias françaises Disney. Parce que je vais d'abord commencer par
expliquer ce que c'est.
On va expliquer ce que c'est, mais juste pour introduire le truc, je vais parler des propos de Hélène Hedzi. Hélène Hedzi, c'est la présidente France de Disney, qui a dit « C'est la conséquence de la chronologie des médias telle que pratiquée en France que nous jugeons inéquitable, contraignante et inadaptée aux attentes de nos audiences. »
Qu'est-ce que ça m'énerve ?
Ça donne envie de se foutre des points, hein, c'est un truc de fou.
Ça montre qu'elle a rien compris déjà.
Et c'est très très grave en fait, parce que c'est clairement un move de connard, hein, ce qu'elle nous dit, la Hélène Hedzi là. C'est un move de connard capitaliste, c'est une déclaration de guerre avec les salles de cinéma et ses exploitants. On va revenir sur ce que c'est la chronologie des médias, on en avait déjà parlé dans l'émission, mais la chronologie des médias, en fait, c'est déjà quelque chose qui existe depuis les années 80 et elle a été modifiée il y a peu à l'arrivée de toutes ces plateformes VOD comme Netflix, Amazon ou Disney+, là c'est le cas. Et la chronologie des médias, en fait, elle est très 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 importante pour ce qui est de l'industrie du cinéma français et pour que ça continue de tourner comme on le connaît aujourd'hui. Mais ça fait justement affreusement chier Disney parce qu'ils veulent avoir le monopole absolu, eux, sur leur sortie. Pour rappel, la chronologie des médias, c'est un calendrier de diffusion. Donc d'abord, le film sort en salle, puis plusieurs mois après, ce sera soit à la TV, soit...
Alors, c'est d'abord Canal+, puisque c'est le plus gros financeur.
Pas forcément que Canal+, mais...
Alors, c'est d'abord salle, après c'est Canal+, en premier, par exemple, pour la télé, et après c'est toutes les autres chaînes. Canal+, ils ont un petit avantage parce qu'ils financent beaucoup plus le cinéma que le
reste. Non, attends, justement, je vais y arriver, William. Donc c'est un calendrier de diffusion. D'abord, le film sort en salle, puis plusieurs mois après, ce sera à la télé, et sur les plateformes DVD encore un peu plus tard. Donc du coup, ça permet à ceux qui mettent du bif sur le film, qui sort en salle, de s'assurer à avoir une diffusion après chez eux. Parce que une fois que la diffusion est à la télé, tu peux gérer ta pub et tout. En gros, c'est toi qui gères ta moula et tu peux prendre enfin de l'argent sur les films que tu as financés. Donc cette chronologie média, en fait, elle cesse de s'adapter en fonction des plateformes qui sortent. Avant, par exemple, c'était 5 ans d'écart entre la sortie ciné et la télé. Ensuite, ça s'est réduit à 3 ans.
Et il y avait aussi la durée pour la sortie en DVD,
qui est juste avant les chaînes.
Ouais. C'est à peu près à ce moment-là aussi. Et avec les plateformes comme Netflix ou Disney qui ont émergé, ça s'est aussi réduit, ils sont réadaptés.
Parce qu'avant, ils étaient à 3 ans et maintenant, ils sont à 18 mois, je crois.
Ouais. Et depuis le début de l'année, du coup, ça a été changé encore. Là, en début 2022, il y a eu un accord qui a fait baisser l'écart entre la sortie salle et la sortie Netflix VOD, qui était de 3 ans au départ. Maintenant, c'est 17 mois entre la diffusion pour Disney+ et 15 mois pour Netflix. Et c'est là que ça fait chier Disney. Parce qu'eux, ils trouvent que déjà, c'est injuste. Sauf que Netflix, croyez-le ou non, mais ils mettent de la moula dans le cinéma français. Et Disney, ils mettent que dalle. Hein,
en fait, c'est en échange d'avoir promis de financer un peu plus le cinéma français qu'on leur a accordé ce petit passe-droit, de la même manière qu'on l'avait accordé pour Canal+, par rapport à la télé française.
Et ils ne sont pas d'accord. Eux, ils n'ont pas signé en fait cet accord. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la part du gâteau. Ils veulent le gâteau, ils veulent le beurre, ils veulent la pâtissière, ils veulent la pâtisserie, ils veulent la ville dans laquelle il y a la pâtisserie. Ils veulent tout. Ils veulent... Non, mais c'est terrible à dire.
Pour faire des gâteaux en forme de Mickey.
Mon Dieu, l'enfer. Ils veulent pouvoir exploiter leur film en fait directement après un tout petit temps d'exclusivité au ciné. Donc ça leur revient directement. En gros, ça passe pas par d'autres mains, quoi. Du coup, ils ont la main prise dessus, ils ont la moula qui va avec et ils partagent pas, quoi. Donc ça, c'est pas possible parce que c'est pas ce qui est prévu par la chronologie des médias. Donc, quand vous voyez, et là on y arrive, William, quand on voit au début les logos dans les films, quand on voit les logos Arte, TF1, Canal+, ça veut dire qu'eux, en fait, ils payent.
Oui, il n'y a pas que Canal+, qui finance, il y a aussi d'autres chaînes.
Il y a M6, il y a tout ça. Et c'est eux, en fait, qui mettent de la thune dans le ciné. Et c'est grâce à ça, en gros, qu'ils font vivre le ciné. Donc, c'est un partage des recettes avec une exploitation qui sera du coup plus rapide selon qui ou quoi a mis de
la thune. Le fait de décaler comme ça les différents supports de diffusion, ça permet de faire ruisseler le financement sur plusieurs étapes, ce qui permet de mieux le répartir derrière. Si on supprime la chronologie des médias, en fait, tout d'un coup, ce refinancement, il devient vachement plus compliqué et beaucoup plus désavantageux pour plein de petits producteurs.
C'est ultra vital, en fait. C'est ultra vital pour ce qui est du cinéma en France, mais aussi en Europe. Parce que c'est comme tu l'as dit, redistribué, ça va chez les distributeurs, ça va chez les producteurs, ça va chez les exploitants de salles. Il y a plusieurs milliers de personnes qui vivent de ça.
Et en plus, chacun a son étape de financement qui lui est propre. Donc ça ruisselle pour tout le monde. Et en même temps, chacun va avoir sa petite étape à lui qui va lui permettre de mieux renflouer aussi ses caisses.
Et le ruissellement, culturellement, ça a aussi cet avantage-là de pouvoir vous proposer des films variés et diversifiés au cinéma. Et pour cela... grâce à la chronologie de médias, en fait, il faut savoir que c'est les gros films, en gros, qui vont attirer le plus de gens au cinéma, que je pense à Avatar, tous les films Marvel, en gros, pratiquement à peu près tous les films Disney. Ces gros films-là, en fait, le CNC va pouvoir les reverser dans des plus petits films, des petits films indépendants. Même le CNC, il faut savoir que ce n'est pas seulement du cinéma. Le CNC, on peut les retrouver, par exemple, chez CNC Talents, qui propose des choses sur YouTube. Ça joue aussi dans les jeux vidéo. En fait, le CNC redisperse cet argent dans beaucoup de médias et essaye de faire vivre la culture française et sa diversité.
Oui, parce que c'est vrai que nous, par exemple, on râle beaucoup quand on voit des grosses comédies françaises un peu lourdes, un peu graveleuses. Mais au final, si ça attire 7 ou 8 millions de personnes, ce qui est sûr, c'est que derrière, ça va permettre de financer plein de petits films de genre.
Ouais.
Donc, on n'aime pas ça, mais c'est utile au financement du cinéma.
Non, puis ce qu'il faut expliquer, c'est que sur un ticket de cinéma, même américain, il y a une partie qui est ponctionnée et qui est reversée à la création française pour le CNC, pour justement, et c'est ça qu'ils n'aiment pas, et on peut le comprendre, que voilà, une partie de leur recette ne leur revient pas et est directement injectée dans la création française. C'est l'exception culturelle, et c'est justement ça aussi le problème des Américains avec le cinéma français.
L'exception culturelle française, voilà, réside là-dessus. Et comme Disney fait partie, avec les autres grosses boîtes qu'ils n'ont pas encore rachetées, fait partie de ceux qui peuvent attirer le plus de monde dans les salles, si Disney bloque tout ça, eh ben c'est fini en gros. Hein. La culture française, comme vous la connaissez aujourd'hui, c'est fini, c'est ciao.
Ça veut dire que les gens viendront beaucoup, beaucoup moins en salle pour notamment voir le nouveau Disney. Et il faut aussi dire que là, en septembre, les chiffres tombés pour la fréquentation des salles de cinéma étaient extrêmement mauvais. Moins 30% de fréquentation par rapport à 2020. Il y avait eu un petit rebond en 2021 après les confinements, mais là, ça a complètement chuté. Et c'est les plus mauvais chiffres depuis l'ouverture des statistiques faites sur la fréquentation des salles dans les années 70. Quoi.
Et c'est terrible. Voilà, ce chantage que fait, pour conclure, ce chantage que fait Disney aux salles de cinéma, à la chronologie des médias, c'est terrible parce qu'ils les tiennent par les couilles. Mais il ne faut pas se laisser faire, vraiment.
En plus, ils font ça au pire moment. C'est-à-dire qu'on a déjà, avec la redevance télévisuelle qui a sauté, une partie de financement qui va disparaître, alors que c'est du financement public, ce qui permettait en plus d'avoir un peu d'indépendance dans les différentes chaînes publiques. Ça permettait aussi en partie de financer des projets télévisuels et cinématographiques. Et en plus, ils font ça à un moment où le modèle économique du cinéma devrait un petit peu évoluer en termes de prix, puisque par exemple, c'est vrai que si t'as pas la carte d'abonnement, tu payes 14€ ta place de cinéma en moyenne en France. Donc ça devient de plus en plus cher d'aller au cinéma, donc forcément ça attire de moins en moins les gens. Les plateformes sont vachement plus rentable à ce niveau-là, puisque tu peux avoir accès à un catalogue énorme pour 20€ par mois. Donc en plus, ils choisissent vraiment le mauvais moment où notre modèle économique il commence un peu à montrer ses limites pour attaquer et en profiter. Tu vois.
Et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser les gens qui gardent l'argument du « oui, mais je paye moins cher mon abonnement parce que je le paye 10€ par mois, alors que je vais une fois au ciné, j'ai déjà 3€ en plus que les 10 balles que je paye par mois pour Netflix ou Disney. » C'est important d'aller au cinéma, en fait.
Ah ouais.
Et ça, ils l'ont bien compris, Disney, pour pouvoir déclarer la guerre. Déclarer la guerre, c'est la guerre, nous sommes en guerre. Tu veux dire quelque chose, Marion ?
Ouais, pour info, il y a une vidéo d'écran large, en fait, qui explique très bien ça, en fait, par rapport à la polémique qu'il y a eu sur Black Panther 2, et qui explique à quel point le marché français est important pour Disney, et que si c'était pas le cas, ils s'amuseraient pas un peu à sortir les crocs pour venir taper le terrain, quoi. Oui. En fait, voilà, il y a un public pour le cinéma en France. Ils expliquent aussi que, comme n'importe quel acteur de n'importe quel secteur, on ne peut pas arriver sur un marché et établir nos propres lois. Ils arrivent sur un marché sur lequel il y a déjà des lois qui sont en vigueur. Donc c'est eux, en tant qu'acteurs, de s'imprégner du marché pour s'insérer dedans et justement pour éviter un monopole, en fait, qui écraserait tous les autres. Et ils expliquent très bien que les modèles qui marchent en cinéma, c'est les modèles qui sont équivalents aux nôtres, donc c'est celui de la Corée. Le Japon, ils sont en train de tout réformer.
Mais le Japon, c'est la merde, je crois. Hein, c'est vraiment
ils
la
réforment
merde,
tout parce qu'ils sont en train de se faire bouffer à cause de ça. Le cinéma italien, il est quasi inexistant aujourd'hui parce que justement, il s'est complètement fait écraser avec
c'est
ça.
C'est l'exemple totalement inverse de notre exception culturelle française.
C'est ça.
Il faut se battre, les barricades, les amis, allez.
Non, mais c'est ça, donc il faut se battre et il ne faut pas croire que Disney va se dire au bout d'un moment tant pis, on s'en va parce que le public français au cinéma est demandeur et c'est trop d'argent d'argent en jeu.
Et puis c'est comme tout, ils préféreront toujours, quoi qu'il arrive, toucher peut-être que 60% de la place de cinéma sur je sais pas 10 millions de personnes qui vont voir leur film que zéro sur personne qui va le voir. Donc en fait, ils essayent de faire un chantage qui, quand on prend deux secondes pour y réfléchir, c'est-à-dire si vous voulez partir, partez de toute façon. Clairement, vous n'allez pas partir.
Ouais, mais, non, mais bien ça sûr, ça ferait très mal.
C'est un mauvais timing pour nous. Mais c'est qu'une question de timing. Derrière, on arriverait à se réadapter à la situation. Parce que Disney, certes, aujourd'hui, ils ont un énorme poids, parce qu'ils sortent beaucoup, beaucoup de films. Mais il y a encore 10 ans, ils n'avaient pas du tout ce poids-là. Et on s'en sortait très bien, malgré tout.
Là, c'était la saga de début d'automne. Là, c'était l'affaire Black Panther 2.
Ouais, mais par rapport à ce que disait Marion, ça vaut le coup de négocier. Et pour Black Panther 2, ça a été assidûment négocié par les distributeurs, la presse française, les journalistes, tous ceux qui sont montés au créneau ici en France pour défendre notre beefsteak. Et on a obtenu finalement dans la négo.
Ouais, mais derrière, il te balance une bombe comme Avalonia sur Disney+.
Oui.
C'est quand même le Disney classique de l'année.
De Noël,
en plus des fêtes de Noël. En fait, le film familial de l'année. Pour les enfants petits et grands, sur Disney+. Par contre, on vous met Black Panther 2, ok, vous avez gagné cette bataille, mais nous derrière, on vous envoie. Tu vois, c'est.
Oui, mais c'est quand même la preuve que la France compte.
Mais bien sûr, ça, ils le savent, mais ils savent aussi que sans Disney, on est foutu.
Moi, je vous trouve gentil, moi, je serais vachement plus radical, je leur dirais, les gars, soit vous vous pliez à nos règles, soit on prend pas vos films. Enfin, vraiment, on n'a pas besoin de Disney, tu vois. Moi, je suis.
Le problème, c'est qu'ils représentent quand même, je crois, 60% du marché.
Ouais.
Donc, c'est quand même énorme. Donc. On peut pas non plus cracher là-dessus. Je sais pas dans quel état serait le cinéma français s'il y avait pas non plus toute la production Disney, parce qu'il y a un public pour ça.
Bien sûr.
Et qu'encore une fois, leur film permet de rémunérer la production française et du coup d'avoir une diversité d'offres aussi sur des petits films. Mais juste, je voudrais revenir par rapport à ce que tu disais sur Avalonia et Black Panther. C'est marrant qu'ils aient pris le risque, entre guillemets, de ne pas sortir Avalonia en salle, qui a un univers quand même un peu étrange, qui peut ne pas forcément rassembler, alors que sur Black Panther 2, qui est un des plus gros succès de Disney, ça par contre, ils disent merde, on va peut-être pas tenter, on va quand même le sortir en salle. Donc je pense que c'est quand même un risque qui est méga calculé quand même, pas sortir Avalonia.
Mais il y a aussi le côté culte, Black Panther, c'est Avengers, c'est Chadwick Boseman, c'est la suite sans Chadwick Boseman. Enfin, il y a tout ce côté aussi derrière pop culture qui peuvent pas, enfin je pense qu'ils peuvent vraiment pas se permettre, parce que là ils se créeraient une guerre avec des gens qui sont même pas concernés par cette guerre de chronologie de médias et qui savent même pas que ça existe, mais ils se créeraient une guerre directement avec les fanzous qui seraient capables de péter des câbles. On a vu qu'Internet avait quand même un certain impact dans tout ce qui était production.
Les politiques de diffusion, bien sûr.
Et d'ailleurs, les gens sur Internet, on y reviendra pour le comme-ci, comme-ça, ils réagissent au fait que les choses ne sortent pas en salle et ça les saoule, en fait, vraiment. Alors, c'est intéressant parce que autant notre pouvoir d'achat est en train de baisser, le cinéma, c'est cher et il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une place de cinéma, ou en tout cas, c'est une grosse gageure. Mais en même temps, les gens réagissent sur Internet souvent pour dire dégoûté, ça sort même pas au cinéma, moi j'aurais voulu le voir en salle. Quoi. Donc il y a quand même un attachement
la salle, c'est magique,
préservé.
Ce sera jamais aussi bien que devant ta télé.
Tu consommes pas les images de la même manière quand elles sont sur grand écran, tout simplement.
Je voulais rebondir sur deux choses. La première, c'est ce que tu disais par rapport aux Internet. En fait, il y en a beaucoup qui disaient que Disney avait lancé ce bruit de couloir pour justement voir quelles étaient les retombées autour du fait de pas sortir les films sur grand écran, et que c'est ça qui avait amené les acteurs autour de la table, en fait, pour en parler, et qui se basait aussi sur les retombées au niveau des fans, voir si c'était accepté par le public ou pas, parce que la grande politique de Disney, c'est dire oui, mais nous on écoute notre public aujourd'hui il veut consommer autrement. C'est la magie de Disney, on est bien d'accord. Enfin, ils cherchent du fric comme tout le monde. Hein. Enfin, voilà, ça reste un gros studio, quoi. Voilà. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est par rapport au cinéma. Pour bosser dans un cinéma, je suis bien placée pour le voir. Alors, il y a un truc qui est très paradoxal, c'est que effectivement, donc les gens se plaignent du prix, avec raison, parce que c'est vrai que le pouvoir d'achat baisse, le prix est énorme, et quand on ne paye pas un abonnement, ne serait-ce qu'aller au cinéma en famille, c'est l'événement de l'année, quoi. Enfin,
fais une soirée ciné en famille, si tu comprends le McDo ou le truc comme ça et tout, enfants, maman, papa, les deux enfants, t'en as pratiquement pour 100 balles, voire plus.
Mais oui, non, mais c'est ça. Donc c'est exorbitant. Et en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est que les salles qui marchent le plus, qui sont complètes en permanence, c'est les technos. Donc la 4DX, la 3D, le ScreenX, le Dolby, tous ces trucs-là.
Les options plus qui coûtent cher.
Qui coûtent super cher. C'est-à-dire qu'une place en 4DX par rapport à un film normal, c'est 6 euros de plus. Donc sur un tarif plein de 14,20 €, ta place en 4DX, elle est de 20,20 €. Tu rajoutes la 3D là-dessus en 4DX 3D, tu te rajoutes 2 euros de plus. Tu n'as pas les lunettes, 1 euro de plus. Donc tu arrives sur un film à 23,20 €. Et ces salles-là, elles sont complètes tout le temps.
Oui, mais
c'est ça que les gens viennent demander. Donc c'est En fait, t'as l'impression que l'expérience cinématographique, elle est en train de changer. Mais alors, du coup, ce qui est dommageable là-dedans, c'est qu'en fait, bah, ça va être réservé à une catégorie de population qui a les moyens de se payer ce genre de place. Donc, bon, voilà.
Je trouve que c'est pas si paradoxal que ça, dans le sens où, comme tu disais, pour des gens qui ont moins de moyens, ça devient un événement d'aller au ciné, ne serait-ce qu'une séance classique. Donc, du coup, à partir du moment où c'est un événement, autant y mettre le prix comme d'aller à un parc d'attractions, quoi, et avoir des trucs en plus, tu vois, une expérience.
C'est ça, c'est au lieu de faire 4 cinémas dans l'année, ils en feront qu'un seul, mais ils iront faire le 4DX 3D.
Et c'est une autre catégorie de spectateurs que ceux qui sont plus, peut-être comme nous, cinéphiles réguliers, et qui là, savent que ça coûte cher, mais ils se prennent un abonnement ou assument d'aller voir des séances classiques, tu vois, sans 4DX et tout, mais ils savent que c'est un certain prix, quoi.
Ouais, mais si tu veux préserver, voilà, c'est 15 sorties par semaine, parce que c'est quand même énorme, hein. On le dit pas assez, mais 15 sorties par semaine, ça veut dire que t'as de tout, en fait. T'as du film indépendant, t'as du film iranien, parce que je parle des distributeurs aussi, mais en termes de ciné français, c'est déjà assez diversifié aussi. Si les blockbusters derrière n'existent plus, bah, le cinéma que vous connaissez là, c'est fini. Il sortira plus que quoi ? Que ceux qui restent, les blockbusters qui restent, les Universal, les
trucs
comme ça.
Je pense quand même que c'est qu'une question aussi de réapprendre à consommer le cinéma un peu moins sur le cinéma divertissement et plus comme le cinéma culture. Tu vois, c'est vrai que Disney, ils ont réussi quand même à inculquer aux spectateurs cette volonté d'aller toujours voir du grand spectacle, un peu décérébré, très, très burné, très actionneur. Mais encore une fois, hein, les très gros films d'animation, gros budget à 400 millions, il y a encore 20 ans, ça n'existait pas et on faisait 100. Donc c'est qu'une question de réadaptation.
Ah, vaste sujet. En tout cas, non, c'est intéressant. Et puis, je pense que c'est important aussi de parler de ça, de se battre, de se dire que le ciné, si vous voulez pas qu'il meure, et ben, il faut, je dirais pas faire la guerre à Disney, parce que de toute façon, on a perdu, hein, on est qui, nous. Mais
au cinéma, quoi.
Voilà, c'est important d'aller au cinéma, de continuer à le faire vivre, en tout cas, tant que ce mode de sortie ciné, ce mode d'exploitation ciné existe, l'exception culturelle française, la chronologie média doit être préservée. Et faut pas laisser Disney tout bouffer, hein, parce que bientôt on se torchera avec du papier cul Disney.
Ouais, j'en ai déjà.
T'en as déjà. Enfin voilà, c'est toute une industrie qui risque de s'effondrer. Faites la guerre comme vous pouvez. Ce film Avalonia, malheureusement, il va falloir le voir sur Disney+, si vous avez Disney+. Hein. Franchement, je sais, ça se fait peut-être pas, mais je vous conseille pas de vous abonner à Disney+ juste pour voir Avalonia.
Ouais, non.
Il y a d'autres moyens. Je vais pas te donner les noms, mais il y a un truc qu'on appelle la Fnac du métro. Voilà. Ouais,
c'est vachement bien.
Les comptes des copains qui se sont déjà fait avoir une fois.
Voilà. Si vous voulez voir Avalonia, nique Disney, nique ta mère. Je fais ta carte, bien plus de
l'ovation. La conclusion du débat.
Miquez-vous, j'aime bien. Bon, Disney Plus, miquez-vous. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. On va se lancer dans le comme ci, comme ça. Et puis on va voir si les gens, tu nous l'as teasé, Clémence, sont énervés par ce procédé. Là, hein, Disney Plus, pas de salle. Alors qu'Encanto y était, allez, c'est le comme ci, comme ça.
Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ci, comme ça.
Les commentaires des internets.
Comme ci, comme ci, comme ça.
Les commentaires des internets.
Hypé, pas hypé, énervé, pas énervé. Chronologie des médias, OSEF, chronologie des médias, le point levé.
Un peu de tout, c'est partagé. Alors déjà, en termes de hype, c'est partagé, en termes juste concernant le film en tant que tel. Mais comme on vient de faire notre débat sur effectivement la non-sortie en salle, je vais d'abord vous lire deux commentaires de gens qui réagissent à ça et qui sont en effet plutôt énervés, comme je le disais. Camille Thiersen qui a écrit « Hâte de le voir, trois petits points, en Belgique. C'est hors de question de regarder ça à la maison, ce sera mieux au ciné. » Alors elle n'est pas énervée en fait, mais motivée à le voir en salle. Par tous les moyens.
Ça devient de plus en plus une phrase qu'on entend, quoi. Jamais j'aurais entendu ça un jour, quoi.
Nous irons en Belgique au cinéma.
Allons au cinéma en Belgique.
On pourra s'acheter des clopes en plus.
C'est moins cher.
Si elle a de l'essence.
Si elle a de l'essence.
Peut-être que c'est un cornet de frites pour regarder la séance et pas des pop-corn.
T'as peut-être des gaufres.
Ou des gaufres. Voilà. Et alors, non, quelqu'un de vraiment énervé, c'est Xenocor. Xenocor, il a écrit « Je ne likerai pas ». Entre parenthèses, la bande-annonce. Uniquement parce que nous sommes le seul pays sur toute la planète à ne pas avoir le film en salle et en plus d'un mois après, dans l'ombre d'Avatar 2, au niveau de la date de sortie. La chronologie des médias n'est pas évidente, mais il faut arrêter de croire que certains « consommateurs » entre guillemets ont peut-être envie de voir les Pixar et films d'animation Disney uniquement sur Disney+, mais également en salle quand on voit ces images. Ouais. Écrit en capital. Ah ouais. Et si vous pouviez, je sais pas, organiser des avant-premières pour le public qui n'est ni influenceur, journaliste ou encore moins parisien, ce serait sympa.
ça vénère tout le monde, hein. Surtout
est-ce que c'est... Pardon.
Vas-y.
Est-ce que c'est vrai que ça ne sort... Enfin, parce que comme on n'est pas le seul modèle qui fonctionne comme ça, est-ce que c'est vrai que dans le monde, on est le seul endroit dans lequel ça ne sort pas au cinéma? Par exemple, je pense à la Corée. Est-ce qu'en Corée, ça sort effectivement que sur Disney Plus aussi?
Corée du Nord, c'est sûr que non. Ouais. Corée du Sud.
Bah, il sort, mais
je pensais
pas
Corée
même
du Sud, mais il fait genre, il répond. Mais en fait,
mais c'est une vraie question parce que je sais pas en fait.
Je sais pas si quelles sont ses sources, mais si c'est le cas, ça veut bien dire qu'on est vraiment, on est vraiment dans le sniper de Disney pour
jouer.
C'est la guerre froide. Hein. On est vrai, là, c'est un truc de fou, hein, ce qui est en train de se passer. Donc, si on est les seuls, ben.
Et il met le doigt sur un truc intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a 2-3 séances en salle qui sont organisées plutôt pour les journalistes. En général, quand il y a des choses comme ça qui sortent, c'est réel.
Ouais. Ah bon, les bâtards.
Mais pour après en faire parler.
Et là, je sais pas s'il y aura des projos presse pour Avalonia. Hein.
Ouais, parce que c'est quand même des... ça pour le coup, c'est des projos privés, c'est que certains cinémas qui sont accrédités pour et tout. Donc,
sinon, ils t'envoient un lien dans ces cas-là. Hein. Quand tu as un film qui sort pas au cinéma, tu reçois dans ta boîte mail un lien, tu le regardes sur un Vimeo privé, et puis c'est fini.
Bon, je passais aux commentaires des gens qui ont un avis plutôt sur le film en tant que tel. Et il y a des gens hypés comme des gens pas hypés. Alors, je commence par les gens qui sont hypés comme Rémi Duck. Qui a une petite photo de profil Donald.
Son père.
Le fils de Donald, Rémi. Il a écrit « Wow, bande-annonce à l'ancienne et une voix off sublime, j'adore !» Voilà.
Mm-hmm. Ouais.
Nous avons aussi Picanian M qui a écrit « Pour un fan d'évolution spéculative tel que moi, ça a l'air très cool. »
Évolution spéculative.
Il m'a perdu.
Lui mine du Bitcoin, lui, c'est sûr.
Et Clément Lavieille, qui a écrit « Mais c'est qu'il y a un peu la vibe de la planète au trésor là-dedans. Franchement, l'univers a l'air top, les personnages ont l'air vraiment cool et ce genre de film avec un tel univers, j'adore. Disney semble redorer le blason depuis peu. Déjà, Raya était vraiment cool, un peu dans la veine d'un Mulan, en moins bien, hein, Mulan reste Mulan. Et Encanto était pas trop mauvais, mais là, ça s'annonce bien. »
C'est vrai, c'est un peu le fils caché entre la planète au trésor et Atlantide, l'Empire perdu.
Je sais pas si c'est bon signe parce que la planète au trésor, c'est pas bien.
C'est pas leur meilleur, quoi. C'est pas leur meilleur.
C'est pas bien. Bon, il y a quand même la chanson de David Hallyday.
Oh, le large. Pardon.
Alors maintenant, je passe juste à deux commentaires pas du tout hypés. Et pour le coup, quelqu'un qui reprend l'argument planète au trésor, mais dans l'autre sens. Buff Fraise, il a écrit...
Buff Fraise contre les vampires.
Je l'aime déjà.
Pardon.
Buff Fraise a écrit « La planète au trésor version Eco Plus et avec des persos sans charisme, non merci. D'ailleurs, je vous conseille de voir Treasure Planet, c'est le meilleur Disney.
Oh. » Oh.
Voilà, bah, je l'aime plus du tout.
Oh là.
Les gens ont d'autres goûts, des fois.
Oh là là, il doit avoir des Bloody Mary, lui, quand il sort. Ah, laisse tomber, il
a l'air... Contre les Bloody Mary.
C'est de la merde, c'est dégueulasse, c'est pas bon.
C'est le meilleur déjà, Disney, c'est chaud quand
meilleur
même.
Meilleur Disney
Côté mais bon, je veux dire, tous les goûts sont dans la nature, enfin, le meilleur Disney.
Mais Hercule, Tarzan, Aladdin, wesh, allô.
Le Roi Lion.
Calmez-vous, ouais, les Disney-files.
Je voulais,
pas être, je voulais pas être trop mainstream à dire le Roi Lion, quoi. Ok, d'accord.
Tara, mais le chaudron magique.
C'est quoi ton Disney préféré?
Oliver et compagnie.
Personne.
Tara, mais le chaudron magique.
Oui, bah oui.
Les trois caballeros.
Le prince et le pauvre. Mickey et Mickey.
Le Noël de Mickey.
Bon, ça va.
Avec les trois Scrooge. Oh.
J'ai un dernier commentaire qui m'a fait rire parce que c'est un commentaire de Kevin.
Oui.
Kevin a écrit, et il a écrit, les dessins sont moches, ça ne marchera pas.
Les dessins.
J'adore, c'est tellement constructif. Voilà.
Les dessins, c'est moche. C'est non. Même pas des dessins.
Il a dit, ça ne marchera pas. Il est.
Il a peut-être raison là-dessus, hein, parce qu'on n'aura jamais les chiffres.
Bah moi, je prédis que ça fera zéro entrée.
Oh, ça pourrait être sur l'affiche, ça.
Mais certainement devin.
Un film qui fera à 100% zéro entrée en salle. Merci Clémence pour le comme ci comme ça. Écoutez, les gens ont envie, les gens n'ont pas envie. Il y a quand même des points levés là-dedans, ça fait plaisir. Et bah, on passe à la suite, hein, parce que Avalonia, l'étrange monde perdu du centre de la
trop
Terre,
long,
du voyage fantastique.
De l'outre-tombe là, c'est trop long.
J'ai plus assez de souffle, il n'y a pas assez de virgule encore. Allez, on change ça.
Fais ton titre.
Avalonia, l'étrange voyage de Monsieur Jones. Non, je rajoute encore des choses. L'étrange voyage, alors...
dur.
Pas facile.
C'était dur.
Ouais, c'est pas simple. Hein. On a une saison de titres pas simples à changer, là. Hein. Mmh. Bon, Kevin, tu ouvres le bal.
Très bien, j'ai 4 titres.
Ah,
c'est
quand
beaucoup.
Même.
C'est beaucoup.
Dont un qui est le dernier qui m'a été inspiré par William.
Ah. Une inspiration.
Que j'ai trouvé
tous.
Pendant le.
Du coup, on peut dire que
podcasts.
C'est plus ou moins le mien alors.
On va dire que c'est un travail collaboratif.
C'est du plagiat.
Attends, je vais voir d'abord s'il est bon.
Alors, premier titre, c'était très simple, Voyage au centre de la douille.
Non.
Pour le côté Voyage au centre de la Terre. Ensuite, j'avais La famille des liés, parce qu'ils s'entendent pas bien.
Ah, ça peut être sympa, La famille des liés.
Ensuite, j'avais Orelsan, Défaite de famille.
Ah, c'est bien ça.
Et après, j'avais le titre qui m'a été inspiré par William, c'est Tom Tom et Papa.
Pourquoi ?
Ah, parce que. D'accord.
Est-ce que William il revendique toujours
ça ? Ah oui, Tom Tom.
Tom Tom,
le GPS.
Ah,
son père.
Ouais, ok.
Voilà.
Ok, sponsorisé par un tirage de cheveux, quoi.
Du coup. excusez-moi, monsieur Romain, mais moi j'en ai.
J'en ai un aussi, monsieur. Moi.
Ah
j'en
bon
ai un et pas à pas piquer des vers les hannetons qui vont avec. Hein. Je peux te le dire.
Vas-y.
Moi, mon titre, c'est Flubber Origins.
saute, la fenêtre ouverte, saute.
Aïe, aïe, aïe.
Ça fait un peu trop de lien avec Robin Williams. Flubber, Jumanji.
Il
n'y
a pas assez de Robin Williams dans nos vies.
Ouais.
En fait, c'est un hommage.
Paix à son âme.
C'est parce qu'il me manque tous les jours, tu sais. Clémence, as-tu des titres ?
Oui, j'en ai deux. Alors, Glooby Boulga, l'étrange mélange. Parce que je trouve que c'est moche. Tu vois, ça me fait penser à un Glooby Boulga visuellement. Et 20 milieux sous la terre.
Hey.
Voilà.
Ah, j'y avais pensé, mais je me suis dit que c'était.
Et parfois, vous savez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs titres.
Tout à fait, c'est bien. Ça définit bien cette proposition.
J'aime bien 20 milieux sous la terre, et c'est bien. J'aime beaucoup. William!
Oui, alors moi j'en ai un qui est vraiment nul, mais je le tente, c'est un braquage. J'ai cru comprendre dans cette émission qu'il suffisait de mettre de l'alcool dans les titres. je suis encore traumatisé du scandale Robesweiser, dont on n'a jamais reparlé, mais qui est quand même un traumatisme profond pour moi.
Qui est le titre préféré des auditeurs.
Il faut savoir que donc, le personnage principal s'appelle Jaeger, qui va vouloir reprendre en main sa vie.
Ah, je vois où tu vas.
Je vais donc dire Jaeger Master.
Et toi ?
Le braquage n'aura donc pas fonctionné.
Laisse ça, laisse l'alcool et les titres professionnels. Jeune fou, va.
Non, en vrai, j'avais aucune idée. C'était très dur, je trouve, à Valonia.
Ah non, c'était pas facile.
Au départ, j'ai tenté un truc avec genre Papy fait de la résistance, vu que le vieux, il a l'air un peu foncé et tout, mais j'ai pas trouvé.
T'aurais pu faire Jules Verne Boulevard ou un truc comme ça. Hein. La tête.
Ouais, c'est très drôle, c'est très très drôle, ouais.
Marion,
et donc, bah, moi je me suis basée juste sur Avalonia et je propose On va où là ? Voilà. Alors, on va où là ? Parce que on sait pas où ils vont, parce que je trouve que ça n'a ni queue ni tête et parce que la direction que prend Disney ne me plaît pas du tout. Donc voilà, donc je dis On va
c'est
où là ?
C'est pas mal.
On va un titre avec Vallée peut-être ? La vallée des. Je sais pas, des embrouilles, de la merde.
Des dinosaures.
La vallée de la merde. Découvrez-vous. Dans les salles. Ah non. La vallée de la merde.
J'aime bien On va où là ? Peut-être une catchphrase avec On va où là ?
On va où là ?
On va où là ? L'étrange voyage ou un truc comme ça ? Mais par contre, 20 milieux sous la terre,
ça marche
bien. Classique, hein, classique, mais voilà, hein, ça marche super bien et ce sera le titre de la semaine.
Bravo.
Ouais.
Bien joué. Bravo.
Merci.
Bravo. Ah. Premier titre de la saison, là,
je
non
l'avais.
Non, j'avais eu aussi.
Non, je l'avais vraiment, mais
j'en ai eu un en commun avec quelqu'un.
Ah, Han Solo, ouais.
Ouais, Han Solo.
Nous deux. Voilà, 20 milieux sous la terre et puis on pourra mettre une petite catchphrase, genre on va où là, l'étrange voyage. Chez Disney ou un truc comme ça, tu vois.
L'étrange voyage, l'étrange c'est pas déjà
film.
Le titre original.
Bah, ça reste un étrange voyage. Hein. Où est-ce qu'il nous embarque, là, Disney ?
On le voyage
pas.
De trop.
Ah, ça fait mal à mon cœur. Mon enfance, on prend un grade. Hein. À l'époque, là, il y avait juste à prendre la petite VHS de Rox et Rookie, le petit bol de céréales, là, putain. Aujourd'hui, faut acheter l'abonnement Disney+, j'en peux plus.
Et en plus, ça se trouve, il va falloir payer en plus, parce que Mulan, c'était sorti sur Disney+, il fallait t'abonner, et en plus, il fallait raquer 30 balles.
Et en plus, il fallait payer, putain, c'est vrai.
Mais ça, ils l'ont
oublié,
pas refait, non ?
Mais j'espère pas.
Ça, c'était un peu un scandale.
Ça, c'était le début de toutes les affaires Disney+.
Première tentative de douillage, quoi.
Non
mais
seulement tu payes ton
voyant.
Abonnement, et en plus, tu payes le film. Putain. Et en plus, ça coûte 200 balles pour faire les parcs d'attractions, là.
Et en plus, le film est pas bien.
Envie de péter
et en
un
plus,
boulon.
Les dessins, ils sont moches.
Voilà, c'est le mot de la fin. Les dessins en plus sont moches. Allez, on va se dire au revoir avec le générique de fin qui se lance tout de suite.
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible ? À la fraîche ?
décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà, c'était la BA d'Avalonia. On va où, là ? 20 000 lieues sous la terre, chez Disney.
Papa Outhet, 2.
Ça pourrait être ça. En tout cas, voilà, c'était une déclaration de guerre avec la polémique Disney, la chronologie des médias, l'Empire VS, le cinéma français, sa diversité, son exception culturelle. Quelle histoire, tout ça. On va se tenir au courant de l'affaire en espérant que le chantage, on tombe pas dedans, quoi. Les bâtards. Non, je suis désolé. Ouais, non, je me sens investi. C'est con parce que c'est un studio qui de notre enfance, quoi. Enfin, bref.
Il y aura un film là-dessus.
L'enfance, c'est fini, Romain.
Un biopic.
Dit-il en prenant une petite crêpe à la confiture. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va se faire, les copains? Je sais pas, j'ai pas regardé le programme.
On fera quelque chose.
On fera bien un truc, hein, de toute manière. En plus, je dis la semaine prochaine, mais là, on est en plein délire où les épisodes sortent un peu comme ça pendant que moi, je suis en vacances dans mon pays natal, le Vietnam. Donc voilà, mais tenez-vous au courant si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Il y a plein d'autres épisodes parce qu'on est déjà au 100e, vous rendez compte, mais je compte pas les matchs retour, je compte pas les hors-série. Vous avez plein d'autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mettez une note, mettez les commentaires, faites-nous remonter tout ça dans l'algorithme, là, on a besoin de shiner, nous, là. Et voilà, on vous embrasse, auditeurs, auditrices, on vous souhaite de belles fêtes de Noël qui vont arriver. Je sais pas quand est-ce que sort l'épisode.
Oh oui, ça va venir vite.
Je me lance comme ça.
Joyeuse Pâques, les amis.
On peut dire joyeuse Pâques. On sait pas quand sort l'épisode, voilà. Allez, des bisous à tous, ciao.
Salut.
Shoshana!
Miquez-vous.
Miquez votre merde.
Oh! Voilà!
Pop, pop, pop.
Non, c'est trop, j'assume pas.